Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania, Relations et La Conversation. Au programme, quoi faire quand on ressent de la jalousie en amitié? Spiritualité et complotisme alliance insolite. Et les tournesols ont des motifs imperceptibles qui attirent les pollinisateurs. Bonne écoute.
Quoi faire quand on ressent de la jalousie en amitié? Un texte de Laïma A. Gérald, paru le 5 mai 2022 dans le magazine Urbania. La jalousie, c'est un deuil anticipé. J'ai une amie d'enfance, Amélie, de qui je suis proche depuis qu'on a 4 ou 5 ans. Nos mères étaient amies. Il y a 2 ans, j'ai organisé mon anniversaire dans un parc et j'ai invité plusieurs personnes, dont mon amie Leïla, avec qui je passe beaucoup de temps depuis l'université. Je dirais que c'est l'amie que je vois le plus. On est vraiment super liés, raconte Maude, une trentenaire établie dans la ville de Québec. Pendant la soirée, j'ai remarqué qu'Amélie et Leïla jasaient vraiment beaucoup ensemble, poursuit-elle. Je trouvais ça franchement cool de voir qu'elles bondaient autant. Même scénario l'année suivante. À l'occasion de l'anniversaire de la jeune femme, Amélie et Leïla sont heureuses de se revoir et discutent une bonne partie de la soirée. Quelques semaines plus tard, Maude est sur Instagram et constate avec surprise que Leïla est taguée dans une story d'Amélie. « J'ai ressenti comme un coup de poing dans le plexus », me confie Maude. Je vais être honnête. Ça m'a fait vraiment chier de savoir que mes 2 amies que j'ai présentées en plus se voyaient sans moi. Elles aiment toutes les 2 le plein air. Moi, c'est 0 mon truc. Donc, dans un sens, je comprends pourquoi elles ne m'ont pas invitée. Mais je me suis senti trahi, triste, fâché. C'est weird. Un deuil anticipé. Que ce soit sur le plan social, amoureux, professionnel ou amical, les enjeux qui sous-tendent la jalousie restent les mêmes, m'explique d'emblée Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue et professeure associée à l'Université du Québec à Montréal. Si la jalousie est beaucoup plus commune en amour, elle peut effectivement s'immiscer dans les relations d'amitié. Pour une grande partie des gens, la relation amoureuse est le lien de proximité principal, ce qui explique que la jalousie est plus commune dans cette sphère, indique-t-elle. Quand on s'engage, qu'on se marie, qu'on fonde une famille, on compte sur le fait que l'autre va rester là. Donc, tout ce qui vient menacer le couple est perturbant. Pour la psychologue, qui vient d'ailleurs d'offrir une conférence sur la jalousie, le lien de proximité existe aussi dans la sphère amicale, mais la majorité des gens se sentent alors moins menacés par la présence d'une tierce personne. La jalousie est une perte potentielle. On a peur de perdre l'autre, on se sent blessé si on sent un potentiel éloignement. C'est un deuil anticipé, déclare Geneviève Beaulieu-Pelletier, qui rappelle l'importance des relations interpersonnelles dans le bien-être des humains. Comme a pu le vivre Maude, le sentiment de jalousie en amitié s'éveille quand on a peur de perdre une amie, et d'être rejeté, abandonné. Or, la psychologue insiste sur le fait que cette peur est anticipée. Pourquoi certaines personnes, comme Maude, sont-elles plus susceptibles de vivre de la jalousie dans un contexte amical? Chaque personne a son bagage, précise notre experte. Si une personne a vécu la perte d'une personne de confiance, un ami, un amoureux ou autre, et a ressenti une déception ou une douleur, elle sera plus sensible à cette tendance. Quelqu'un qui a des angoisses d'abandon, de la part des parents par exemple, aura tendance à reproduire ça en amitié. Les amis de mes amis sont mes amis? Si on partage des points communs avec plusieurs de nos amis, il y a de fortes chances que ces personnes s'entendent bien entre elles. Mais dans le cas de Leïla et Amélie, celles-ci ont découvert un intérêt commun que Maude ne partage pas, d'où la jalousie ressentie par cette dernière. Je me suis sentie menacée. J'avais l'impression que mes amis n'avaient plus besoin de moi. Le fait qu'elle entame une relation d'amitié sans moi, ça m'a vraiment fait peur, et j'ai eu envie de les flocher toutes les 2 pour me venger, genre, raconte Maud, en ajoutant qu'elle a plutôt décidé d'en parler à ses amis, ce qui a désamorcé la situation. Si Maud a décidé de parler de ses émotions à ses amis afin de maintenir les liens, il existe plusieurs réactions potentielles lorsque l'on est jaloux ou jalouse. Certaines personnes vont verser dans la surveillance, le contrôle et l'agressivité, fait valoir Geneviève Beaulieu-Pelletier, en ajoutant que ce type de comportement, provoqué par la blessure et la peur de perdre l'autre, risque de l'éloigner davantage. On peut se demander si le nouveau comportement qu'on adopte maintient le lien ou, au contraire, le mine. Selon la psychologue, on constate d'autres types de réactions face à la jalousie, qui elle-même englobe plusieurs émotions comme la tristesse, la colère et l'anxiété. Dépendamment de comment on gère chacune de ces émotions-là, nos réactions vont varier et être influencées par notre gestion de celles-ci, décrit-elle. Certaines personnes se sentent blessées, perdent confiance en elles, se sentent rabaissées, voire humiliées. D'autres personnes vont se retirer, couper les ponts, ou alors faire fi de leurs émotions pour maintenir le lien coûte que coûte. Pour la psychologue, dans le meilleur des cas, la jalousie est un excellent prétexte pour se questionner et même retravailler sa relation. Si je sens que mon ami s'éloigne de moi pour se rapprocher d'une tierce personne, je peux prendre le temps de me poser des questions. Qu'est-ce qui a changé dans notre relation? Qu'est-ce que je ne lui amène peut-être pas ou plus? C'est aussi une occasion de réfléchir sur ses propres comportements. La jalousie constructive. Geneviève Beaulieu-Pelletier explique que lorsqu'on ressent de la jalousie ou tout autre sentiment envahissant, il est recommandé de prendre le temps de se déposer et d'identifier ce que ça active en nous. Est-ce que ça évoque des souvenirs? Qu'est-ce que l'on sent dans son corps? Est-ce simplement des pensées ou pose-t-on des actions en ce sens? La psychologue croit que de nommer ses émotions permet de diminuer la charge qu'elle suscite. Elle affirme également que d'avoir des pensées jalouses ne signifie pas forcément que l'on va agir. L'idée est de normaliser l'émotion et de créer une prise sur celle-ci. Nommer ses émotions, comme la jalousie, permet de désamorcer certaines pensées et de ne pas forcément agir dans ce sens-là, ajoute-t-elle, en insistant bien sur le fait que la jalousie est un sentiment normal et adaptatif. Pour conclure, Geneviève Beaulieu-Pelletier rappelle que, en amour comme en amitié, il est tout à fait sain de ressentir de l'attirance, à différents degrés, pour d'autres personnes et de souhaiter combler des besoins avec d'autres individus. Quand c'est discuté dans la dyade d'amitié, on réalise parfois que cela ne remet pas obligatoirement la relation en question et qu'elle n'est pas forcément menacée. Ces discussions viendront peut-être même nourrir la relation. Les noms cités dans ce texte sont fictifs. C'était « Quoi faire quand on ressent de la jalousie en amitié ?» un texte de Laïma Agérald, paru le 5 mai 2022 dans le magazine Urbania.
Spiritualité et complotisme. Alliances insolites. Un texte de Derdre Maintel, paru dans le numéro 819, hiver 2022-2023, de la revue Relations. L'auteur est professeur au département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Comment comprendre les convergences entre certains mouvements spirituels et religieux et des groupes complotistes d'extrême droite dans le contexte de la pandémie? Ont-ils vraiment des choses en commun? Quelques éléments de réponse à une question complexe. La pandémie a entraîné son lot de surprises et de situations inédites. Parmi celles-ci, la convergence entre certains groupes complotistes d'extrême droite d'un côté et des personnes s'identifiant à des groupes spirituels et religieux de l'autre en est laissé plus d'un pantois. Plusieurs reportages ont signalé la présence de catholiques, évangélistes et baptistes intégristes parmi les camionneurs qui ont manifesté à Ottawa en février 2022. Comment expliquer le fait que des idées comme celles voulant que les vaccins contre la COVID-19 visent à implanter une micropuce capable de contrôler notre esprit, courante à l'extrême droite, soit diffusée par des personnes souvent instruites qui cherchent le mieux-être dans des églises spiritualistes ou des spiritualités yogiques. Lorsqu'on y regarde de plus près, ces convergences sont moins surprenantes qu'il n'y paraît, et surtout témoignent d'un certain rapport à la spiritualité dans le contexte séculier qui est le nôtre. Rappelons d'abord qu'une des caractéristiques du complotisme est d'expliquer les phénomènes complexes et perçus comme étant menaçants en des termes simplistes et spéculatifs, les considérant comme le fait d'une collusion entre des pouvoirs néfastes et invisibles, ou du moins anonymes. Les élites obscures et leurs savoirs secrets sont typiquement des éléments de base du complotisme, tout comme le sentiment d'être marginalisé par les autorités, qu'elles soient religieuses, scientifiques ou politiques, précisément pour avoir eu accès à une vérité cachée. Ce que le politicologue Michael Barkin appelle des formes de savoir stigmatisées. L'anthropologue Didier Fassin, qui s'est penché sur ces questions dans le contexte sénégalais, a constaté la similitude cognitive entre les croyances à la sorcellerie et les théories voulant que la COVID-19 soit la création de puissances occidentales, des entreprises pharmaceutiques ou de l'État profond. Les recherches que j'ai dirigées montrent que la croyance à la sorcellerie et le schéma cognitif qui la sous-tend sont loin d'être absents au Québec, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des gens issus de courants très différents, Wicca, catholicisme charismatique, spiritualisme, croient à l'ingérence d'esprits maléfiques dans la vie des personnes et que la sorcellerie, sous la forme de la magie noire, est pratique courante dans notre société. Ces milieux, socialement marginaux et centrés sur l'expérience spirituelle personnelle, sont porteurs de notions largement stigmatisées, comme la croyance à la réalité de Satan et des démons comme êtres maléfiques chez les évangélistes et les catholiques charismatiques, la communication directe avec les esprits chez les spiritualistes ou l'efficacité des sorts chez les Wiccans. Comme l'observe Barkin, les groupes qui véhiculent une forme de savoir stigmatisé sont assez ouverts à d'autres idées stigmatisées, prenant leur rejet commun par les autorités comme un signe de leur véracité. Ainsi, ces milieux spirituels semblent plus propices que d'autres à accueillir des notions complotistes pour expliquer les phénomènes complexes tels que la pandémie, bien que l'on trouve des divergences en leur sein. Ce type de convergence entre complotisme et spiritualité, par ailleurs, est largement connu des chercheurs et chercheuses sous le nom de conspiritualité. Ce terme désigne une philosophie politico-spirituelle fondée sur deux prémices fondamentales. Qu'un groupe secret cherche à contrôler l'ordre politique et social et que l'humanité est en train de vivre un réveil, un changement de paradigme. Notion dont on entend surtout parler dans les milieux spiritualistes, ésotériques et néo-chamaniques. Je m'attarderai ici à la première. La pandémie, terreau de conspiritualité? Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le discours complotiste au Québec et au Canada s'est manifesté aussi bien au sein de courants spirituels plus marginaux que de traditions religieuses très répandues. Le site web canadien LifeSight News, par exemple, catholique et ultra-conservateur, a été temporairement banni de certaines plateformes en raison des notions complotistes qu'il diffusait au sujet des vaccins et de la pandémie, présenté comme une machination ourdie par des élites mondialisées dans le cadre d'un programme plus vaste de dépopulation mondiale qualifié de maçonnique. Certaines églises évangéliques, à Montréal comme ailleurs au Canada, ont par ailleurs défié les règles sanitaires pendant la pandémie et promu l'idée que celle-ci était le fait d'un programme politique. Précisons toutefois que ces prises de position sont souvent critiquées par des personnes qui s'identifient à la même confession. Des groupes plus marginaux, spiritualistes et ésotériques, par exemple, ont connu des divisions et des pertes de membres à cause de différends concernant l'origine de la pandémie, les vaccins et les mesures imposées par le gouvernement. on observe un portrait similaire du côté des milieux de la santé holistique et de la croissance personnelle, eux aussi traversés par des divisions au sujet de la pandémie et des vaccins. Comment comprendre ces convergences vers la conspiritualité? Soulignons qu'elles surviennent en grande partie au sein de groupes qui rejettent l'autorité externe en faveur de la vie intérieure de l'individu. Pour la sociologue des religions Linda Woodhead, la popularité croissante de la spiritualité holistique est un exemple qui reflète la sacralisation de ce virage culturel plus large vers la vie subjective opérée depuis les années 1960, comme l'a décrit entre autres Charles Taylor dans « Les sources du moi », Boréal 2003. Cette sacralisation concerne moins les religions organisées que des groupes et réseaux de différentes tendances qui proposent des ressources spirituelles, phrase souvent entendue chez les participants à l'enquête sur les religions au Québec de Statistique Canada. La validation de l'authenticité et de la véracité de ces ressources relève surtout du vécu de l'individu et est donc hautement subjectivée, ce qui peut mener ces personnes à adhérer à des idéologies politiques et sanitaires stigmatisées, pour reprendre le terme de Barkin. Les groupes qui semblent plus proches de la droite politique, certains groupes évangéliques ou de catholiques traditionnalistes radicaux, ne sont pas pour autant moins contestataires à l'égard de l'autorité scientifique, politique ou religieuse. Par exemple, les catholiques de droit dits « radical traditionalists » sont particulièrement critiques envers le pape François. L'objet de leur contestation diffère parfois, mais tous ces groupes nourrissent, du moins implicitement, une herméneutique de la suspicion, pour reprendre le terme de Ricoeur. Cette suspicion, par ailleurs, se nourrit de celle des autorités à leur égard. Au Québec, par exemple, certains groupes religieux et spirituels qui mettent l'accent sur la guérison, des praticiens de soins holistiques et même certains coachs de vie se croient ciblés par la surveillance de la part du Collège des médecins, entité qui représente à leurs yeux l'autorité gouvernementale et scientifique dans nos sociétés. On peut ainsi voir apparaître des caractéristiques communes entre certains courants religieux et spirituels et l'extrême droite populiste. La prééminence de savoir stigmatisé dans les deux cas. Le rejet commun d'autorité conventionnelle comme source de vérité ou de légitimité. Leur marginalisation commune par rapport aux organisations mainstream et leur penchant pour le leadership charismatique. Ces convergences semble toutefois donner lieu davantage à des alliances idéologiques ponctuelles et variables qu'à des mobilisations durables. Elles révèlent néanmoins les dynamiques fluides et parfois imprévisibles qui sont le fait du religieux contemporain, au Québec comme ailleurs. C'était « Spiritualité et complotisme, alliances insolites », un texte de Deirdre Maintel, paru dans le numéro 819 hiver 2022-2023 de la revue Relations. Les tournesols ont des motifs imperceptibles qui attirent les pollinisateurs. Un texte de Marco Todesco paru le 14 juin 2022 dans le magazine La Conversation. Les fleurs constituent un des exemples les plus frappants de la diversité de la nature. Elles présentent une myriade de combinaisons de couleurs, de motifs, de formes et de parfums. On y trouve des tulipes colorées, de délicates marguerites, des frangipaniers odorants, mais aussi des fleurs cadavres géantes à l'odeur putride. Leur variété et leur diversité sont stupéfiantes. Il suffit de penser à l'orchidée en forme de canard volant. Mais même si nous pouvons admirer la beauté et la diversité des fleurs, elles ne sont pas vraiment conçues pour nos yeux. Le but des fleurs est d'attirer les pollinisateurs, et c'est à leur sens que les fleurs répondent. Les motifs ultraviolets, UV, en sont un bon exemple. De nombreuses fleurs accumulent des pigments UV dans leurs pétales, formant des motifs qui sont invisibles pour nous, mais que la plupart des pollinisateurs peuvent voir. Le décalage entre ce que nous voyons et ce que les pollinisateurs perçoivent est particulièrement frappant pour les tournesols. Malgré leur caractère emblématique dans la culture populaire, comme en témoigne le supposé honneur d'être l'une des rares espèces de fleurs ayant un émoji à leur image, ils ne semblent pas être le meilleur exemple de diversité florale. Une affaire de perception. Ce que nous considérons généralement comme un seul tournesol est en fait une grappe de fleurs, appelée inflorescence. Tous les tournesols sauvages, dont il existe environ 50 espèces en Amérique du Nord, ont des inflorescences très similaires. À nos yeux, leurs ligules, les pétales agrandis et soudés au pourtour de l'inflorescence du tournesol, sont toutes du même jaune vif uniforme que nous connaissons bien. Cependant, lorsqu'on l'examine dans le spectre UV, c'est-à-dire au-delà du type de lumière que nos yeux peuvent voir, ce qu'on voit est très différent. Les tournesols accumulent des pigments absorbant les UV à la base des ligules. Sur l'ensemble de l'inflorescence, il en résulte un motif qui forme comme un centre de cible. Dans une étude récente, nous avons comparé près de 2000 tournesols sauvages. Nous avons constaté que la taille de ces taches UV varie considérablement, tant entre les espèces qu'au sein d'une même espèce. Le tournesol présentant la plus grande diversité dans la taille des cercles UV est Ilianthus annuus, le tournesol commun. Ilianthus annuus est le parent sauvage le plus proche du tournesol cultivé et est le plus répandu des tournesols sauvages, poussant presque partout du sud du Canada jusqu'au nord du Mexique. Alors que certaines populations de Ilianthus annuus possèdent de très petites taches UV, chez d'autres, la région absorbant les ultraviolets couvre toute l'inflorescence. Attirer les pollinisateurs. Pourquoi y a-t-il d'aussi grandes différences? Les scientifiques connaissent depuis longtemps les motifs UV des fleurs. Parmi les nombreuses approches utilisées pour étudier le rôle de ces motifs dans l'attraction des pollinisateurs, certaines ont été très inventives, comme couper et coller des pétales ou les enduire de crème solaire. Lorsque nous avons comparé des tournesols avec différents cercles UV, nous avons constaté que les pollinisateurs étaient capables de les distinguer et préféraient les plantes avec des taches de taille moyenne. Cela n'explique pas pour autant toute la diversité des motifs UV que nous avons observés dans différentes populations de tournesols sauvages. Si les cercles UV moyens attirent plus de pollinisateurs, ce qui est manifestement un avantage, pourquoi existe-t-il des plantes avec des taches petites ou grosses? D'autres facteurs. Si l'attraction des pollinisateurs est sans contredit la principale fonction des caractéristiques des fleurs, il apparaît de plus en plus que des facteurs non liés à la pollinisation, comme la température ou les herbivores, peuvent affecter l'évolution de caractéristiques telles que la couleur et la forme des fleurs. Nous avons découvert un premier indice que cela pourrait être le cas pour les motifs UV du tournesol lorsque nous avons examiné comment leur variation est régulée sur le plan génétique. Un seul gène, HAMYB111, est généralement responsable de la diversité des motifs UV qu'on observe chez Ilianthus annuus. Ce gène contrôle la production d'une famille de substances chimiques appelées glycosides de flavonol, que nous avons trouvé en forte concentration dans la partie absorbant les UV des ligules. Les glycosides de flavonol ne sont pas seulement des pigments qui absorbent les UV, et ils jouent un rôle important en aidant les plantes à affronter différents stress environnementaux. Un deuxième indice est lié à la découverte du fait que le même gène est responsable de la pigmentation UV dans les pétales de l'arabette de Thallius, Arabidopsis thalliana. Cette plante est l'organisme modèle le plus couramment utilisé en génétique végétale et en biologie moléculaire. Elle est capable de se polliniser elle-même et se passe donc généralement de pollinisateurs. Comme elles n'ont pas besoin d'attirer les pollinisateurs, leurs fleurs blanches sont petites et discrètes. Pourtant, leurs pétales sont remplis de flavonols qui absorbent les rayons UV. Cela laisse croire qu'il existe des raisons non liées à la pollinisation qui expliquent que ces pigments soient présents dans les fleurs de l'arabette de Thalius. Enfin, nous avons remarqué que les tournesols de climat plus sec présentaient systématiquement des taches UV plus grosses. L'une des fonctions connues des glycosides de flavonol est de réguler la transpiration. Nous avons effectivement constaté que les ligules avec de gros motifs UV, qui contiennent de grandes quantités de glycosides de flavonol, perdaient de l'eau à un rythme beaucoup plus lent que celles avec de petits motifs. Cela semble indiquer que la pigmentation UV des fleurs peut avoir deux fonctions, du moins chez les tournesols. Rendre les fleurs plus attrayantes pour les pollinisateurs et aider les plants à survivre dans des environnements secs en conservant l'eau. Une évolution économe. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Tout d'abord, que l'évolution est économe et que, dans la mesure du possible, elle utilise le même trait pour atteindre plus d'un objectif adaptatif. Ces observations nous apportent également une voie potentielle pour améliorer les cultivars de tournesol, en augmentant les taux de pollinisation en même temps que la résistance des plantes à la sécheresse. Nos travaux, ainsi que d'autres études portant sur la diversité végétale, permettront de prévoir comment et dans quelle mesure les plantes arriveront à faire face au changement climatique, qui modifie déjà les environnements auxquels elles sont adaptées. C'était « Les tournesols ont des motifs imperceptibles qui attirent les pollinisateurs », un texte de Marco Todesco, paru le 14 juin 2022 dans le magazine « La Conversation ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Luc Mercure et Dominique Desrosiers à la lecture, Jean-Sébastien Laliberté et André Lebeau à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.